Bonjour à tous. Alors que les élections européennes montrent combien il est difficile pour un nouveau parti de trouver de l'argent, retour sur la plus grande levée de fonds politique jamais organisée en France. Il y a tout juste 2 ans, Emmanuel Macron était élu président après avoir récolté 16 millions d'euros. Mais comment a-t-il fait et qui sont ses donateurs ? Vous avez analysé les tout derniers chiffres, Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Jacques.
On écoutera donc vos conclusions et puis nous recevrons Barnabé Binquetin, bonjour également.
Bonjour.
Alors vous, pour le site d'information Bastamag, vous avez enquêté sur des projets immobiliers qui se multiplient autour des grandes stations de ski, des projets, dites-vous, qui ne seraient pas sans conséquences sur l'environnement.
France Inter, secret d'info. Jacques Monin.
J'ai créé un mouvement politique le 6 avril dernier. Ce mouvement politique, il n'a aucune subvention publique. Pour le mouvement, j'irai solliciter la générosité des Français, d'autres, pour justement le financer. Et je le ferai sans aucun état d'âme, parce que je l'ai déjà dit, la démocratie, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût.
Voilà, ça c'était Emmanuel Macron le 4 septembre 2016 sur France Inter. Le futur candidat explique qu'il aura besoin d'argent et ça résonne d'ailleurs avec l'actualité puisque le nouveau mouvement Génération de Benoît Hamon ou même l'UDI viennent de se voir refuser des prêts par des banques. Pour les jeunes partis, il n'y a donc toujours que le système D. Or ce système, eh bien En Marche l'a utilisé avec une efficacité jamais égalée et c'est ce qu'on va vous raconter maintenant. Mais pour commencer, Sylvain Tronchet, faut rappeler que lorsque le futur président se lance dans la campagne, il a effectivement très peu de ressources.
Oui, quand Emmanuel Macron lance En Marche le 6 avril 2016, on sait, grâce aux documents que nous avons pu consulter, qu'il n'a que 80 000 euros en caisse. Ce n'est rien pour un parti politique. Et son grand problème, c'est qu'il n'a pas accès au financement public des partis. Un système qui favorise les mouvements installés, m'a expliqué l'économiste Julia Cagé, qui a conseillé Benoît Hamon pendant sa campagne, mais qui a aussi travaillé en tant qu'universitaire sur ce sujet.
On a un système de financement public direct de la démocratie en France qui est figé par intervalle de 5 ans puisqu'il dépend des résultats obtenus aux dernières élections législatives. Ça veut dire que si entre 2 élections législatives, aujourd'hui par exemple les Gilets jaunes ou en 2016 Emmanuel Macron, vous voulez créer un nouveau parti politique, vous ne pouvez pas avoir de financement avant les prochaines élections législatives. Et c'est vrai qu'avec du recul, c'est complètement dysfonctionnel en France qu'un parti politique qui va remporter les présidentielles et les législatives ne touche aucun financement public direct en 2016 et en 2017. Donc Emmanuel Macron, finalement, c'est vrai, il doit se tourner vers des financements privés puisqu'il n'a pas le droit d'un financement public.
Et il fait comment pour les trouver, ces financements privés ?
Eh bien, puisque les dons des entreprises ne sont plus permis, il n'a qu'une possibilité, faire appel aux dons des particuliers. Une source de financement peu utilisée jusque-là en France, m'a expliqué l'universitaire Abel François, spécialiste du financement politique.
C'est plus quelque chose qui est, on va dire, des partis de droite. Les partis, les candidats de droite ont plus l'habitude de faire appel aux dons des électeurs. Mais ça s'explique par la sociologie de leur électorat. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, l'appel aux dons des électeurs est très très peu utilisé. Parce que ça a un coût assez important pour les partis et pour les candidats de lever, en fait, des fonds. Puis c'est pas quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent très très bien. En plus, il peut y avoir des problèmes de perception par rapport à ça. Donc, jusqu'à 2017, c'était une source de financement assez peu utilisée par les partis politiques.
Oui, assez peu utilisé, mais chez En Marche, donc, ça va devenir la source de revenus numéro 1.
Et l'équipe de campagne a un plan détaillé dans un mail de Christian Darnia, un ancien de la BNP qui va être le président de l'association de financement d'En Marche. Ce mail, que nous avons fait lire, est issu des Macron Leaks, cette gigantesque fuite de mails de l'équipe Macron. Et l'équation de départ y est clairement posée.
Quand on sait que les dépenses de campagne présidentielle sont limitées à 22 millions d'euros, et que nous pourrions contracter un prêt bancaire à hauteur de 9 millions remboursés si le candidat dépasse le seuil des 5% aux élections. Il nous reste donc à trouver 13 millions. Si l'on arrondit à 10 millions le budget à trouver, il faut donc obtenir des dons de 1 333 personnes à 7 500 euros chacune.
1 333 personnes qui donneraient chacune 7 500 euros. Mais pourquoi 7 500 euros ?
Eh bien parce que 7 500 euros, c'est la somme maximale qu'un particulier peut donner tous les ans à un parti politique. Et là, on comprend bien la stratégie initiale de l'équipe Macron. La cible, ce n'est pas le grand public. La cible, ce sont quelques centaines de personnes capables de faire un chèque de plusieurs milliers d'euros.
Et comment les trouver, ces personnes ?
Eh bien, en organisant des déjeuners, des dîners, comme à Londres, 8 jours après la création d'En Marche, où le ministre de l'économie est en voyage officiel. Paris Match écrit alors qu'il aurait levé 12 millions d'euros dans la capitale britannique. Du coup, à l'Assemblée, le député Les Républicains Georges Fenech interpelle Manuel Valls.
Monsieur le Premier ministre, pour le compte de qui votre ministre en exercice effectue-t-il ses levées de fonds ? Le voile du soupçon doit être levé.
La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls.
Emmanuel Macron est allé à la rencontre des entrepreneurs britanniques et français qui sont nombreux à Londres. Il n'y a eu aucune levée de fonds particulière pour je ne sais quelle association.
Bon, mais alors Sylvain, il y en a une ou pas de levée de fonds ?
Il y a eu une tentative de levée de fonds, c'est écrit dans un document interne d'En Marche. Mais le comble, c'est qu'elle n'a quasiment rien rapporté. On le sait grâce aux chiffres que nous avons pu consulter. Au mieux 20 ou 30 000 euros. On est très loin des 12 millions qu'évoquait Paris Match.
Ouais, donc le démarrage était plutôt diesel.
Oui, mais à partir de là, l'équipe chargée de trouver les fonds va mettre en place une vraie stratégie, avec des poissons pilotes, des hommes, des femmes qui vont servir de rabatteurs. Dans un autre mail, le trésorier d'En Marche, Cédric O, propose l'un de ces poissons pilotes au reste de l'équipe.
Salut à tous. Suite à notre échange d'hier soir et comme convenu, je vous fais suivre le profil de Mylène. Je pense qu'elle serait top pour donner un coup de main. Elle est très maligne, hyper sympa. C'est son job de soutirer de la maille aux gens qui ont de la thune. Et en plus, c'est une meuf, ce qui est un atout non négligeable. Par ailleurs, je la connais très bien et je lui fais confiance.
Il y a une certaine familiarité dans ses propos. Maintenant, ce que montre quand même bien ce mail, Sylvain, c'est que là, on n'est plus dans l'amateurisme. On met en place une véritable stratégie.
Oui, et pour cela, on organise ou on fait organiser par des particuliers des cocktails qui réunissent des gens bien identifiés, des gens qui, contrairement à Londres, ont été sélectionnés et prévenus que s'ils venaient, c'était pour donner. J'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui y ont assisté à ces réunions, dont celle-ci, qui a souhaité rester anonyme. Nous avons fait lire son témoignage.
On était invités dans un grand appartement parisien. L'ambiance est feutrée, il y a un buffet, la maîtresse de maison dit « pas de photos, pas de réseaux sociaux ». Emmanuel Miquel et Christian Darnia sont arrivés. L'un raconte l'histoire d'En Marche, l'autre explique les règles de financement. Emmanuel Macron est déjà là, mais il reste caché. En fait, il arrive pile quand les deux premiers ont terminé. Et là, tout le monde est tombé sous le charme. Il ne dit rien de plus que ce qu'il a dit dans les médias, mais il le dit bien. C'est un show, ça dure 45 minutes. Il repart, Christian Darnia distribue des bulletins de dons.
Ouais, c'est un show, dit cette donatrice. Et apparemment, là, donc, ça fonctionne.
Oui, et tous les témoignages que j'ai recueillis vont dans le même sens. Ça fonctionne sur un style plus que sur des promesses. Comme le montre une séquence qu'a pu tourner le réalisateur Yann Lénoré, qui a filmé Emmanuel Macron à New York devant un parterre de financiers.
Je ne suis pas le millionnaire ou milliardaire que certains prétendent. Si je suis au-dessus de 5%, l'État me rembourse 8 millions d'euros. Donc j'ai encore besoin de lever en equity, je vais dire, 5-6 millions d'euros pour pouvoir aller au bout avec les mêmes moyens que les autres. Voilà.
Attendez, lever en equity 5 à 6 millions, ça veut dire quoi ?
C'est un terme classique dans le monde de la finance. L'equity, ce sont les fonds que vous arrivez à obtenir d'investisseurs quand vous lancez un projet. L'ancien banquier d'affaires Emmanuel Macron sait comment toucher ce public, comme me l'a raconté l'un de ses grands donateurs, un gestionnaire de fonds d'investissement qui a lui aussi demandé à rester anonyme.
Ce qui m'a séduit, c'est qu'il avait été banquier. Il n'avait rien à voir avec les élus qui n'ont fait que cela toute leur vie. Je disais à mes amis, il sait faire autre chose que de la politique. Il parle anglais, il est jeune, qu'est-ce que tu veux de plus ? Moi, j'ai tout de suite vu en lui la personne qui allait nous représenter à l'étranger et redorer l'image de marque des Français après Hollande et Sarkozy. Il disait des choses assez simples en fait. Il disait par exemple qu'il allait casser les codes droite-gauche. Et puis il nous racontait son histoire, celle de son mouvement. Et quand on est dans le business, qu'on est entrepreneur, on ne peut qu'être séduit par ça.
Ouais, donc son discours passe bien auprès de ses milieux d'affaires.
Oui, et autant Nicolas Sarkozy, qui avait levé pas mal d'argent en 2007, autant Nicolas Sarkozy s'adressait aux grandes fortunes traditionnelles françaises, autant Emmanuel Macron, lui, parle à ce monde de l'investissement, du capital risque, de la net économie. Et ça marche, hein, comme en témoigne ce mail envoyé à son équipe par un autre gestionnaire de fonds qui vient de participer à une soirée.
Bonjour Emmanuel et Christian. Nous avons fait pas mal de prosélytisme autour de nous depuis notre rencontre du 18 juillet et nous avons de nombreux amis et connaissances très intéressés pour une rencontre avec Emmanuel Macron. Ce sont plutôt des personnes issues traditionnellement de la droite, comme mon épouse et moi, ce qui est intéressant. Nous sommes volontaires pour accueillir une rencontre chez nous au retour des vacances. Nous avons un grand appartement avec une grande salle de réception de 120 mètres carrés environ, pouvant bien se prêter à cet exercice. Nous pouvons accueillir entre 50 et 100 personnes comme vous le souhaitez. Nous pourrions de notre côté en réunir 30 ou 40.
Ah oui, donc on voit même des volontaires se manifester. La machine semble maintenant donc bien huilée. Sauf que cette belle machine, Sylvain, eh bien on va se rendre compte qu'elle ne rapporte pas assez.
Oui, en septembre 2016, après 6 mois de levée de fonds, le trésorier d'En Marche, Cédric O, a quelques sueurs froides. Dans une note, il dresse un constat inquiétant. Malgré tous ses efforts, le mouvement n'a levé qu'1 500 000 euros.
Nous ne sommes pas à la cible, d'autant moins avec la campagne des législatives à venir. Il faut muscler le dispositif. Il faut des gens à temps plein, des déplacements à l'étranger et se préparer à faire de la levée de fonds pendant toute la campagne. Sur les dépenses, nous sommes sur une tendance trop élevée. Il faut resserrer les gros postes de dépenses, salaires et meetings. Il faut se préparer à tabler sur un budget qui ne sera pas 15 millions d'euros.
Ah oui, donc il faut faire des économies sur le fonctionnement et en même temps trouver plus d'argent.
Oui, et trouver plus d'argent, eh bien, c'est trouver plus de grands donateurs. Hein, parce que ce que nous avons découvert en analysant les fichiers de dons, c'est qu'à ce moment-là, au début de la campagne, les gros dons représentent près des 3/4 du total des sommes collectées.
Mais c'est pas ce qui se disait à l'époque, ça, Sylvain.
Non, quand on l'interroge sur l'origine des fonds qu'il récolte, voilà ce que répond Emmanuel Macron sur Europe 1, quelques temps plus tard, le 18 novembre 2016.
Il y a plus de 10 000 donateurs. Une très grande majorité, ce sont des petits dons, autour de 40-50 euros, parfois moins. Et il y a 5% des dons qui dépassent 1000 euros. Voilà.
5% des dons qui dépassent 1000 euros. Mais là encore, c'est pas tout à fait ce que vous nous avez expliqué à l'instant, là, Sylvain.
Mais si, en fait. Tout dépend comment on prend les chiffres. Ce que dit Emmanuel Macron ce jour-là, globalement, c'est vrai. Mais il oublie de dire une chose. Sur les 3,6 millions qu'il a levés à cette date, les 2/3 lui ont été donnés par 331 personnes. Voilà. Cette dépendance aux grands donateurs, l'équipe Macron va la dissimuler derrière un brouillard de chiffres pendant toute la campagne, notamment parce qu'elle a fait le constat que ça décourageait les petits donateurs et que ça donnait une image candidat du CAC 40. Hein, c'est écrit noir sur blanc dans un document interne d'En Marche.
Ouais, en tout cas, cette communication, apparemment, elle va porter ses fruits.
Oui, début 2017, les petits dons arrivent enfin. Les grands donateurs sont de plus en plus nombreux. Le mouvement collecte, à ce moment-là, 2 millions d'euros par mois. À tel point que, dans l'équipe Macron, on estime qu'il ne faut pas trop afficher cette soudaine richesse, comme le montre cet échange de mails entre 3 membres du premier cercle, Cédric O, Ismaël Emelien et Benjamin Griveaux.
La collecte totale, c'est 11 millions d'euros, donc on communique sur 10 millions et 35 000 donateurs. Le don moyen, c'est 250 euros, on ne communique pas dessus.
Voilà ce qu'on peut dire à mon sens. Collecte totale, 10 millions d'euros. 35 000 donateurs et don médian, 50 euros.
J'ai une modification à apporter à la réponse d'Ismaël. On met 9 millions de dons perçus et pas 10. Le chiffre de 9 millions d'euros pour 35 000 donateurs est déjà sorti, donc restons dessus.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu que la levée de fonds de En Marche a peiné à démarrer et que la majorité des premiers dons étaient des dons importants. Maintenant, on va entrer un peu dans le détail de ces dons, Sylvain Tronchet. Combien il y en a eu d'abord?
Alors, sur toute la campagne, Emmanuel Macron a reçu 1212 dons de plus de 4500 euros. Mais ça ne fait pas 1212 donateurs. Il y en a eu nettement moins, probablement plutôt aux alentours de 800. parce que certains ont donné plusieurs fois.
Mais c'est pas plafonné les dons ?
Alors si, mais vous pouvez donner 7500 euros par an à un parti. Donc certains ont donné 7500 en 2016, puis 7500 en 2017. Mmh. Et vous pouvez donner en plus 4600 euros à un candidat. Ce qui fait qu'on a pu identifier des donateurs à 19 600 euros. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi donner pour votre conjointe ou votre conjoint. Donc, certains ont déboursé au total près de 40 000 euros.
Ah oui, donc en théorie, je ne peux pas donner plus de 7 500 euros, mais dans les faits, c'est possible.
Oui, en fait, l'équipe Macron a optimisé au maximum la réglementation sur le financement politique, en ayant bien conscience qu'ils étaient vraiment sur la bordure, hein, comme en témoigne ce mail de Julien de Normandie au reste de l'équipe.
Les amis, on en a déjà discuté, mais je voudrais revérifier le fait que notre politique visant à solliciter les dons sans faire de distinction entre mouvement et campagne ne pose pas de problème. Je dis cela car l'esprit de la loi est bien de limiter le montant des contributions au titre de la campagne. Bref, je voudrais être sûr qu'on ne puisse pas nous reprocher qu'on affecte par défaut les dons au mouvement en faisant ensuite le transfert vers la campagne.
Effectivement, il y a une petite interrogation là, on l'entend bien. Maintenant, ces donateurs qui répondent présent, Sylvain, pourquoi ils le font ?
Il y a peut-être autant de réponses que de donateurs, hein. Mais j'ai rencontré l'un de ces très grands donateurs. Il a donné le maximum, 40 000 euros. C'est un gestionnaire de fonds qui a lui aussi réclamé l'anonymat. Écoutez ce qu'il m'a expliqué.
J'ai bien conscience que c'est une somme pour beaucoup de gens, mais soyons honnêtes, je ne me suis pas saigné. On m'a déjà demandé ce que j'espérais en retour. J'ai répondu, tu crois que j'attends un retour pour quelques milliers d'euros ? Moi je donne à des associations, j'investis beaucoup dans les start-up et je n'en attends pas de retour. Macron c'était pareil, en fait c'était enthousiasmant, j'avais envie de me mobiliser. Dans notre milieu, on ne parle jamais de politique, je veux dire de politique partisane, mais Macron lui a réussi à nous en faire parler. Et puis, les Américains qui misent des millions sur un candidat, ça doit bien les faire marrer nos 7500 euros.
Ouais, donc lui, il donne d'abord, hein, on l'entend parce qu'il est séduit. Maintenant, il vous parle sous le sceau de l'anonymat. Est-ce qu'on en a identifié certains de ces donateurs ?
Alors oui, hein, grâce au Macron Leaks et à nos données, on a pu en identifier une petite centaine. Sans surprise, il y a deux grands profils, des gens du monde de la finance et des entrepreneurs, notamment dans le secteur du numérique.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, pas mal de banquiers de chez Rothschild, hein, l'ancienne maison d'Emmanuel Macron. Quelques noms connus, l'ancien président du PSG, Laurent Perpère, qui fait dans la finance aujourd'hui. Augustin Paluel-Marmont, c'est le Augustin de Michel et Augustin. Mmh. Ou Christian
les mousses au chocolat.
C'est ça, mmh. Ou Christian Louboutin, les chaussures, par exemple. Et puis, il y a aussi des très grandes fortunes, hein, comme Philippe Lafond, c'est un Français installé aux États-Unis, créateur d'un fonds d'investissement, fortune estimée à 1,4 milliard de dollars. Un financier suisse de haut vol, Klaus Sommels, ou le germano-américain Olivier Bergruen, qui est une grande figure du monde de l'art.
Ah oui, donc même des étrangers. Mais ces noms-là, Sylvain, ils n'ont jamais été publiés officiellement ?
Non, contrairement à de nombreux autres pays, hein, aux USA, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, il n'y a pas de transparence en France sur les dons aux candidats. Et ça, c'est problématique pour le député PS Régis Juanicot, qui a été le trésorier de campagne de François Hollande, puis de Benoît Hamon.
Les Français ont le droit de savoir qui finance qui dans une campagne électorale majeure comme l'élection présidentielle, de façon à ce que les électeurs puissent vérifier que ces donateurs-là le font de façon naturelle, mais ne le font pas en attendant une contrepartie pour tel ou tel lobby ou groupe d'intérêt ou groupe de pression. Et effectivement, c'est une mesure de bon sens dont on n'a pas réussi à la mettre en œuvre. Ici, à plusieurs reprises, j'ai fait des amendements à l'Assemblée nationale depuis 2010 et on n'y est jamais arrivé.
Ouais, on n'y est jamais arrivé, mais en l'occurrence sur la campagne d'Emmanuel Macron, Sylvain, est-ce que ça a posé problème ?
C'est une question qui a été soulevée par un autre député, Les Républicains, celui-là, Olivier Marleix, quand il a commencé à découvrir dans la presse les noms de certains donateurs d'Emmanuel Macron. Certains, banquiers, avocats, ont gagné beaucoup d'argent sur de gros dossiers comme la vente d'Alstom à General Electric. Or, cette vente ne pouvait se faire qu'avec l'accord du ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Pour Olivier Marleix, il y a là une proximité troublante.
Dans le cadre de la vente d'Alstom à General Electric, c'est plusieurs centaines de millions, entre 5 et 600 millions d'euros d'honoraires qui sont payés et qui ne sont versés d'ailleurs que, pour une grande partie, en success fee, c'est-à-dire si l'opération se fait, si elle ne se fait pas, toutes les rémunérations ne sont pas payées. Et j'avoue que j'ai été extrêmement surpris de découvrir que finalement dans la liste des donateurs, de la campagne d'Emmanuel Macron, il semblait qu'on puisse retrouver les bénéficiaires, les gagnants de ces ventes, quoi. Quand une autorité administrative chargée de délivrer une autorisation reçoit a posteriori un retour, un avantage, même s'il revêt une forme légale en soi, c'est effectivement extrêmement troublant.
Ouais, troublant, dit Olivier Marleix. Et comment on justifie ça du côté de En Marche ?
Alors, j'aurais voulu poser la question à Christian Darnia, mais il ne m'a pas répondu. Mais dans ses mails, on lit qu'il avait identifié de possibles problèmes de conflit d'intérêts. Et c'est pour ça que certains chèques ont été gardés et encaissé seulement après le départ de Bercy d'Emmanuel Macron.
Ah oui, une fois qu'il n'était plus ministre, donc, ce qui montre bien d'ailleurs qu'on était assez prudent quand même dans l'équipe de campagne.
Oui, ça aussi, ça ressort des échanges de mails. Mais malgré cela, après l'élection, la commission des comptes de campagne a signalé 144 000 euros de dons à la justice parce que leur provenance était inconnue. Chez En Marche, que j'ai contacté, on explique que ces dons n'ont pas été encaissés. Ils proviennent, disent-ils, pour moitié de petits donateurs qui ont mal rempli leur formulaire. Il y a aussi 77 000 euros de virements dont l'origine était inconnue. Une enquête est toujours en cours.
Ouais, à suivre donc. Bon, maintenant au final, Sylvain. Si on regarde le total des dons qui ont été récoltés, quelle est la part des grands et des petits donateurs ?
Eh bien, à l'arrivée, on peut dire la chose suivante. Sur 16 millions, la moitié sont venus d'environ 800 grands donateurs. Il y a eu aussi, en tout, près de 100 000 petits donateurs, ce qui est très important, mais il est clair aussi que, notamment sur le début de la campagne, les gros chèques ont été essentiels.
Ouais, ça a été le carburant qui a fait décoller la fusée. Et pour les autres candidats à la présidentielle de 2017, Sylvain, ça s'est passé comment ? Est-ce que leur mode de financement est comparable à celui dont on vient de parler ?
Non. Alors d'abord, il y avait ceux qui n'avaient pas besoin de fonds. François Fillon, il a quand même collecté 5,5 millions de dons en 2016 et 2017 via son parti, Force Républicaine. Mais il avait par ailleurs une enveloppe de 10 millions qui venait des contributions des électeurs de la primaire de droite. Benoît Hamon et Marine Le Pen, eux, n'ont presque pas reçu de dons, mais ils avaient un parti assez riche derrière eux.
Et Jean-Luc Mélenchon ?
Alors lui, il avait le même problème qu'Emmanuel Macron, pas d'argent. Il a donc fait appel aux dons. Si on additionne ce qu'il a récolté sur sa campagne et son parti en 2016 et 2017, on arrive à 4,5 millions. C'est 4 fois moins qu'Emmanuel Macron.
Et puis, quoi qu'il en soit, Sylvain, lever des dons, ça a marché pour Emmanuel Macron, mais ça ne marche pas toujours.
Eh bien non, votre capacité à récolter des dons, elle dépend évidemment de votre savoir-faire, mais aussi et surtout de votre clientèle électorale. Après tout, ceux qui rassemblent le plus dans les classes populaires, rien ne leur interdirait de récolter beaucoup de petits dons. Sauf que les travaux de l'économiste Julia Cagé, qui a eu accès à des données fiscales inédites, ont montré que ceux qui donnent sont les plus aisés.
Il y a deux choses qui sont vraiment frappantes une fois qu'on regarde ces données en France. C'est que, un, il y a très peu de gens qui donnent ou contribuent chaque année à un parti politique. On est à 0,79% des foyers fiscaux en moyenne, donc c'est vraiment très faible. Et la deuxième chose, c'est à quel point, par contre, ce chiffre est élevé pour les plus riches. Le pourcentage de foyers fiscaux qui donnent parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, c'est 10%. Ce qui est vraiment frappant, c'est que, pour le coup, cette générosité, là, elle est toute politique. Parce que si on fait le même calcul avec les dons aux associations, ce qu'on appelle les dons coluches, les dons au Resto du Cœur, donc les plus riches, finalement, donnent un peu moins. Donc, les plus aisés financent le jeu démocratique en France.
Ah oui, donc mécaniquement, ce seraient les plus fortunés qui contribueraient au financement politique.
Oui, et ce financement, il est ensuite payé par l'ensemble des contribuables. Parce que les dons sont défiscalisés à 66%. Quand vous donnez 7 500, vous économisez 5 000 euros d'impôts. C'est autant de rentrées en moins dans le budget de l'État.
Bon, mais une fois qu'on a dit ça, Sylvain, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a un moyen de faire autrement ?
Eh bien, dans le livre qu'elle a publié en août 2018, Le prix de la démocratie, Julia Cagé esquisse une piste et propose un système qui ne coûterait pas plus cher à l'État.
Moi, dans mon livre, je propose ce que j'ai appelé les bons pour l'égalité démocratique, qui est un financement public égalitaire et annualisé. Donc, on prend les sommes qui sont aujourd'hui utilisées pour les réductions fiscales. On prend les sommes qui sont aujourd'hui utilisées pour le financement public direct de la démocratie et en fait on les transforme en bons pour l'égalité démocratique qui sont 7 euros d'argent public donnés chaque année à chaque contribuable, indépendamment de ses revenus, et qu'il peut allouer au mouvement politique de son choix. Et ça, ça permettrait, si vous avez l'émergence d'un nouveau parti comme La République En Marche, plutôt que ce parti aille faire campagne à Londres pour essayer de lever des dons de 7500 euros, que ce parti aille, dès le départ, et le candidat, faire campagne auprès de l'ensemble des citoyens français pour bénéficier potentiellement de ces 7 euros d'argent public par citoyen.
Ouais, donc c'est une proposition parmi d'autres d'ailleurs. Mais est-ce que pour autant, Sylvain, il est envisagé de changer de système ?
Non, pour l'instant, il n'y a aucune réforme dans les tuyaux. Emmanuel Macron s'est battu contre un système, mais maintenant, il en bénéficie. En Marche touche 22 millions par an de financement public grâce à ses résultats aux législatives.
Ouais, donc, a priori, en 2022, s'il se présentait, il n'aurait plus besoin de dons.
22 millions par an sur 5 ans, ça fait 110 millions. Donc, a priori, oui, il y a de quoi financer une campagne à 20 millions, dont la moitié serait remboursée.
Bien, merci Sylvain Tronchet. Alors je précise que votre enquête, on peut la retrouver sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous y trouverez également des graphiques très éclairants sur la sociologie et sur la géographie des donateurs de 2017. Et vous pouvez également nous laisser évidemment vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Des projets pharaoniques dans des stations de ski vont-ils mettre en péril l'environnement? On en parle dans quelques instants avec notre invité. This right here is the tale of Banks and Conley, the two greatest outlaws America's ever seen. They tied the ropes, down they went, and all they found was sheets in the wind. They were blown in the out wind. The 20th floor, smack downtown. They changed their clothes from white to brown. Caught a cab and headed south, way out to Conley's grandma's house. The trail was hot, you can't stay. Granny turned them both away. They split up separate ways. Been on the lam about 10 days. They busted out, love in the air. We're all in search of the lion's share. We're all in search of the lion's share. We're all in search of the lion's share. We can all get some. Dance. Put the money in your pants. Run. We can all get some. Dance. Put the money in your pants. Run. We can all get some. Dance. Put the money in your pants. Run. We can all get some. Dance. Put the money in your pants. Run. We can all get some. Dance. Put the money in your pants. Run. This right here is the tale of Banks and Conley, the two greatest outlaws America's ever seen. They tied the sheets, smack downtown. Jails can't hold these fellas down. Banks had the loot stashed in the safe, in a backyard in the Buckeye State. He picked and picked, moonlights the air. Work that back for the lion's share. 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 They both got lost, love in the air. We're all in search of the lion's share. We're all in search of the lion's share. So work that back for the lion's share. Ça balance entre un son très 60s et des musiques d'Ennio Morricone. Ça donne envie de se balader. C'était Sisyphus, extrait du dernier album du chanteur américain Andrew Bird.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Et alors que la saison de ski s'achève avec ses vacances de Pâques, eh bien on va maintenant recevoir Barnabé Binquetin. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez sur le site Bastamag une enquête sur la boulimie de construction qui affecte certaines grandes stations de ski françaises. Et ça commence par le Club Med qui investit régulièrement dans la neige depuis plusieurs années. C'est 3 projets en 3 ans à peu près, c'est ça?
Oui, c'est annoncé qu'ils en feront à peu près 1 par an dans les Alpes.
Alors lesquels?
Alors là, le dernier s'est ouvert aux Arcs en décembre. Avant, ça avait été dans une station qui s'appelle Samoëns. Et le prochain devrait être à Montvalzan. Et il en est d'autres annoncés à Tignes, à Valois.
Alors Montvalzan, c'est juste en dessous de la station de la Rosière, en Savoie, pour préciser.
Exactement, ça s'appelle le Club Med de la Rosière. Et il est annoncé pour la fin de l'année, peut-être le début de l'année prochaine.
Alors ça représente quoi exactement ces complexes?
Bah, c'est des complexes d'environ 1000 lits, assez grands. surtout à Montvalzan, qui est une petite station. Et ça représente, en l'occurrence, un impact énergétique assez important. Ce qui a été montré à Montvalzan, c'est que la production d'eau chaude allait se faire au fioul, ce qui a donc une conséquence assez importante en termes d'émissions de CO2. Le chauffage se fait de manière électrique. Donc on est sur des standards énergétiques assez moyens, pour le coup, pour du bâtiment dit neuf, sachant que la question de la permanence du ski, en tout cas de sa possibilité d'en faire à plus long terme, est toujours sa durabilité en tant que telle est posée.
Alors, on parlait de ces projets immobiliers, mais effectivement, derrière, il y en a d'autres. Et c'est ce qui donne une résonance particulière au sujet. Vous évoquez aussi la création d'un grand centre aquatique à La Plagne, d'un autre à Courchevel, d'une liaison téléphérique entre l'Alpe d'Huez et les deux Alpes.
C'est ça, c'est ce qu'on a appelé dans cet article l'artificialisation de la montagne, qui de manière générale traduit une volonté d'étendre toujours plus le domaine skiable et en fait l'anthropisation de la montagne, avec un but en général unique, soit faire du ski, soit accompagner l'activité ski. Et c'est ça qui est en cause, en tout cas, c'est le fait de vouloir réduire l'activité de montagne à quelques semaines en hiver autour d'une seule et même activité qui est le ski.
Ouais, le ski est parfois même, et c'est là que c'est assez fou, du ski d'intérieur.
Alors, exactement, ça c'est en l'occurrence le fameux ski dôme qui se fait à Tignes et qui est en fait justement le symbole de ce dilemme auquel fait face l'industrie du ski. Tignes, c'était historiquement une station où on pouvait skier toute l'année, c'était le slogan historique de la station, 365 jours de ski par an. Depuis plusieurs années, ça n'est plus le cas puisque le glacier de la Grande Motte est fermé, en tout cas n'est plus ouvert, il est fermé en général à peu près 2 mois. Et donc face à ça, une des solutions envisagées, c'est de construire une grande piste d'intérieur pour faire du ski indoor, avec de la neige produite évidemment artificiellement, et qui permettrait d'entretenir ce mythe de la possibilité de faire du ski chaque année.
Et si vous parlez de mythe, c'est parce que vous considérez que la relève n'est pas forcément assurée. Vous dites que la jeune génération trouve que le ski, c'est ringard.
Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été menée par l'agence Pop Rock, qui a fait en effet beaucoup de bruit l'année dernière quand elle est sortie, et qui montre une certaine désaffection de la nouvelle génération pour l'activité du ski, et qui montre que, de manière générale, la montagne n'est plus associée uniquement à cette activité, et qui revient à ce qu'on se disait à l'instant sur l'idée et la volonté de la diversifier. Mmh. En fait, le ski, l'activité ski, elle est face à deux problématiques différentes mais liées, qui sont celles, en effet, des jeunes générations et de la volonté de continuer à faire du ski.
De la durabilité. Et celle de l'impact sur l'environnement.
Oui, et en fait, qui est celle de la durabilité également, puisqu'en fait, on ne sait pas dans quelle mesure on pourra continuer à faire beaucoup de ski dans les années et les décennies qui viennent à cause du changement climatique. Et dont Tignes est justement un exemple, puisque le glacier fond et qu'il ne permet plus de faire du ski comme avant l'été.
Alors il n'empêche, la politique des pouvoirs publics aujourd'hui, c'est plutôt d'encourager cette activité, parce qu'on considère que c'est bon pour l'économie. Et on va même chercher maintenant des skieurs à l'étranger et très loin. C'est-à-dire qu'on vise particulièrement la clientèle chinoise.
C'est ça, justement, comme la population française est un peu en doute sur l'activité ski, le Club Med ostensiblement annonce de la clientèle de plus en plus étrangère. Ça va par ailleurs avec son modèle économique, hein. Je rappelle que Club Med, son actionnaire principal, c'est Fosun, c'est un conglomérat chinois. Et cette année, la Chine est le troisième pays qui a vendu le plus de journées ski. Enfin, c'est le troisième pays où on a le plus pratiqué de ski cette année dans le monde. Et donc, le Club Med développe une politique pour attirer des clientèles plutôt internationales. Il y a aussi le développement de ce produit de consommation qui est le package ski tout compris, où on a le transport en avion, le transfert de l'aéroport jusqu'à la station, forfait, ski, hôtel, et tout ça emballé, c'est pesé.
Et là, l'idée, c'est de passer par l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon.
Par l'aéroport de Saint-Exupéry, pour lequel le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes milite pour l'ouverture d'une ligne directe Lyon-Chine. Il y a celui de Grenoble également, dont une étude récente montrait qu'il était structurellement déficitaire, qui lui sert plutôt à alimenter une partie des stations d'Isère et d'Alpes du Nord.
Alors un dernier mot, parce qu'on ne fait pas que promouvoir des projets immobiliers, on ne fait pas que viser une nouvelle clientèle, mais on modifie également la montagne elle-même. Et vous évoquez dans votre enquête ce fameux Mont Lacha au Grand Bornand. Alors qu'est-ce qu'on a fait là-bas?
Alors c'était intéressant, j'ai pour cela échangé avec un berger, Joseph Boussion, qui raconte qu'au cours de ses alpages, l'été, il voit comment on travaille la montagne, c'est-à-dire comment on la terrasse, comment on la profile pour créer des pistes et notamment pour permettre d'atteindre toujours le sommet le plus haut. Donc en fait, les sommets, les arêtes, on va les travailler, on va les arrondir, souvent à coups de pelleteuses et de bulldozers, pour permettre de créer des domaines skiables qui atteignent le sommet. Et donc le Mont Lacha a été comme ça un peu raboté, un peu arasé, pour permettre de créer des pistes.
D'avoir des pentes plus douces,
en fait. Pentes plus douces.
Donc de faire venir plus de monde.
Et à tout niveau.
Sur ces parties-là.
Exactement, des gens de tout niveau. Ce qui est intéressant, c'est comment on dénie la part même la plus sauvage de la montagne pour en faire une activité économique dont on ne sait toujours pas dans quelle mesure on pourra la continuer dans quelques années.
Bien, bah, on en reparlera dans quelques années avant ça, j'imagine. Merci Barnabé Binquetin. Alors je rappelle donc que votre enquête sur l'industrie du ski et ses conséquences, on peut la lire sur le site bastamag.net. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert, avec à la technique Julien Dumont et Rémi Sistiaga, et une programmation musicale qui était signée Jean-Baptiste Audibert. Dans quelques instants, vous retrouverez Denis Chessou pour un CO2 Mon Amour spécial Bruxelles. Excellent week-end à tous et à samedi prochain.